Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque deux hommes se présentèrent à elle avec un vêtement éblouissant. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Vous pouvez éteindre vos cierges.
Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, retentit cette question à la fois directe et salutaire. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est l'interpellation vigoureuse qui s'adresse aux femmes accourues jusqu'au sépulcre de grand matin en ce premier jour de la semaine pour embaumer le corps de Jésus. Nous avons là l'affirmation que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est le vivant par excellence. Et par conséquent, il est inutile de le chercher du côté des morts et de tout ce qui engendre et alimente la mort. Devant pareille affirmation, nous pouvons penser que pour ces femmes qui ont accompagné Jésus dans sa mission, subitement tout devient clair, suscitant en elles une folle espérance. Or, l'évangéliste saint Luc insiste au contraire sur la perplexité des femmes au moment où elles découvrent que le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau. Et même, il ne craint pas de préciser qu'elles ne savent quoi penser. Puis, aussitôt après, quand deux hommes aux vêtements éblouissants se présentent à elles, elles sont comme pétrifiées, le visage baissé vers le sol, comme si elles n'arrivaient pas à se détacher du tombeau et du monde des morts. Que penser également de l'attitude des 11 apôtres, lorsque les femmes rapportent l'expérience qu'elles viennent de vivre? Ils considèrent qu'ils ne peuvent accorder aucun crédit à des propos aussi délirants. Quant à Pierre lui-même, venu vérifier ce qu'avaient dit les femmes, il repart du tombeau et s'en retourne chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Étonné, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa foi en la résurrection n'est pas encore solidement établie. Ainsi, grâce à ce récit de la résurrection et de tous les autres, le comportement des premiers témoins est d'une grande importance pour nous. La manière dont ils réagissent nous dit clairement qu'il leur a fallu du temps, comme il en faut à tous les chercheurs de Dieu et à nous-mêmes, pour accéder pleinement à la lumière de la résurrection. Il nous aide à comprendre de quelle manière aussi Jésus s'est fait reconnaître des disciples. À l'exemple de Dieu qui laisse aux hommes le temps de se détourner des apparences du monde, de renoncer à leur suffisance et de venir à lui sans les brutaliser, comme cela nous a été merveilleusement rappelé à travers les lectures de l'Ancien Testament qui retraçaient toute l'histoire du salut depuis la création, de la même façon, Jésus n'a pas contraint les siens, qui le savaient mort, à le proclamer de nouveau vivant par l'éblouissement soudain d'une évidence irrécusable. Au contraire, il se donne le temps de leur faire sentir sa présence sous un mode tout nouveau. Il leur laisse le temps de s'en étonner, d'en douter, d'y réfléchir, d'en discuter entre eux. Il leur laisse le temps de se rappeler ce qu'il leur a dit quand il était encore en Galilée, qu'il lui fallait être livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Jésus leur laisse le temps pour que la douleur de l'absence s'apaise, qu'elle fasse place au désir de le rencontrer autrement, et que l'absence se retourne en une présence insaisissable mais indubitable. S'il nous faut du temps à nous aussi, frères et sœurs, pour accéder à la lumière de la résurrection du Seigneur, il nous faut aussi beaucoup de temps pour que cette lumière illumine et transforme notre vie en profondeur, pour que nous vivions en ressuscité à la suite du Christ, le premier-né d'entre les morts. Au plus fort des événements de la passion et de la mort de Jésus, les apôtres qui l'avaient suivi d'abord avec enthousiasme l'ont abandonné, trahi et renié, sans toutefois tomber dans la désespérance. Et les apparitions de Jésus après sa mort stimulent leur espérance plus forte que leur faiblesse. Dès lors, Pâques, c'est avant tout la découverte d'un nouveau visage de Dieu au cœur de notre pauvreté, de notre misère, le visage d'un Dieu aimant et miséricordieux qui, en Jésus-Christ, nous ouvre un chemin de grâce et de renouvellement permanent. Dieu veut ainsi muer toute faiblesse en bien, toute nuit en lumière, toute mort en vie. Et aujourd'hui, avec les bouleversements qui marquent notre société, beaucoup de questions se posent à la conscience chrétienne. Ainsi, nous sommes en droit de nous demander s'il est nécessaire de bousculer à ce point la structure traditionnelle de la famille, alors même que celle-ci est déjà largement fragilisée. De même, est-ce bien raisonnable, pour des raisons économiques, de vouloir poursuivre des expériences sur l'embryon humain, le réduisant à être un matériau de laboratoire? Et concernant la fin de vie, ne faut-il pas tenir fermement que la dignité humaine ne réclame pas de supprimer volontairement la vie, mais au contraire de l'entourer de tous nos soins jusqu'à la fin? Pour une part, l'avènement d'une société nouvelle et le fait d'actions, de décisions collectives, mais aussi cet avènement relève de nos attitudes personnelles. Nous avons besoin de convertir des manières de vivre, des mentalités qui nous enferment et empêchent que le souffle nouveau de l'amour, du pardon, de la solidarité, de la liberté puisse traverser nos cœurs et nos institutions humaines. Ce souffle, c'est celui de l'esprit du Dieu d'amour, c'est l'esprit du ressuscité qui nous invite à ne pas vouloir le chercher parmi les morts. Lui, le vivant, il est toujours du côté de la vie. Frères et sœurs, en cette nuit bienheureuse où nous célébrons la Pâque du Seigneur Jésus, il nous est bon d'entendre cette recommandation de l'apôtre Paul. Ayons à cœur ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes. Et de préciser par ailleurs, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Éclairés par l'Esprit de vérité, alors nous discernerons ce que l'Esprit du monde a de contraire à l'Esprit de l'Évangile. Nous aurons en retour la liberté de ne pas faire comme tout le monde. À la suite des apôtres, nous découvrirons aussi que nos fragilités sont un chemin sur lequel le Seigneur nous rejoint et nous manifeste sa tendresse. Nous aurons l'espérance chevillée au corps, au point de croire avec l'Église entière que là même où le péché abonde, la grâce de la résurrection surabonde. Amen.